À la une ce soir.
Ça va être une opération policière qui va prendre du temps.
L'incendie dans le Vieux-Montréal aurait fait au moins 7 morts. Qui sera tenu responsable?
C'était un hébergement illégal. L'enquête est en cours. Nous permettra donc d'avoir davantage de détails sur les mesures sécurité incendie.
Veille de budget provincial, pas de souliers neufs pour le ministre des Finances.
Ce sera une nouvelle tradition. Plutôt que d'acheter, on va donner.
Changement climatique, la fenêtre pour agir est en train de se refermer, préviennent les experts. Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous. Bon début de semaine. L'incendie majeur, mais surtout mortel, dans le Vieux-Montréal jeudi relance tout le débat sur les plateformes de location type Airbnb. Au moins 7 personnes qui ont perdu la vie coincées dans cet immeuble patrimonial en flammes, dont certains logements n'avaient, semble-t-il, même pas de fenêtre ou d'issue de secours. L'enquête s'annonce très longue. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie, mais Marie-Michel, il faut quand même dire que les autorités n'excluent pas le geste criminel.
Toutes les hypothèses sont présentement sur la table, dont celle de l'incendie criminel. Je vous rappelle là, que 9 personnes ont été sauvées, une extrémiste des flammes. 7 personnes ont perdu la vie. Hier, les autorités ont extirpé un corps du bâtiment. Il s'agirait d'une femme, donc il reste encore 6 corps à l'intérieur de la bâtisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il pourrait y en avoir d'autres parce qu'on n'est pas encore à l'étape de pouvoir entrer à l'intérieur du bâtiment. La structure est encore dangereuse. Et c'est un bâtiment qui est patrimonial, qui a plus de 100 ans. Donc, ce qu'on nous explique, c'est qu'on doit retirer brique par brique pour préserver l'aspect historique. On doit s'assurer que l'endroit est sécuritaire. Les enquêteurs, par la suite, vont pouvoir entrer à l'intérieur pour aller chercher des preuves, pour prendre des photos, pour extirper les corps qu'il reste. Mais le service de police de la Ville de Montréal, le directeur Fadi Daguerre, est très clair. On est encore à l'étape d'étudier toutes les hypothèses et de prendre en considération qu'il pourrait y avoir des victimes supplémentaires. Il s'agit d'une enquête qui sera complexe, Marie-Christine. On parle d'une semaine, possiblement 2 semaines. J'ai posé la question à Fadi Daguerre, pourquoi c'était une scène possiblement de crime si c'est un incendie criminel qui était complexe. On l'écoute, suivi du directeur du service incendie de la Ville de Montréal.
Considérant la valeur patrimoniale du bâtiment, on ne va pas le démolir vers la façon normale et à cause du fait qu'il y a aussi encore fort probablement, comme le chef Daguerre dit, des personnes à l'intérieur. Donc, ils vont défaire pierre par pierre, puis on va essayer de conserver ce qu'on peut de la partie patrimoniale du bâtiment.
Ça a brûlé et ça a brûlé longtemps. Dans quelles conditions qu'on va retrouver des corps? Comment qu'on va être capable de remettre les pièces du puzzle ensemble? C'est ça qui est extrêmement complexe.
Est-ce que le propriétaire collabore avec vous?
Pas de commentaire là-dessus. On peut être surpris de découvrir d'autres corps à l'intérieur qui n'ont pas été encore réclamés par leur famille.
Marie-Michel, la mairesse Valérie Plante a interpellé directement Airbnb?
Oui, la mairesse Valérie Plante qui s'est présentée ce matin sur la scène, elle demande carrément au président d'Airbnb de faire sa job. C'est exactement dans ces mots-là qu'elle s'est adressée ce matin au président d'Airbnb. Il faut comprendre que les logements à l'intérieur du bâtiment, il y en avait plusieurs illégaux de type Airbnb. Écoutez bien ce qu'elle avait à lui dire.
C'est pas normal qu'il y ait une entreprise qui, elle, ne se préoccupe pas de la légitimité des gens qui font affaire avec elle et qu'elle déverse la responsabilité sur les instances municipales et provinciales que les contribuables payent. Non, mais quand on y pense, c'est complètement absurde, là, c'est le monde à l'envers. Donc, oui, on va les améliorer, les processus, mais moi, je m'attends quand même à ce que ce ne soit pas les Montréalais puis les Québécois qui payent à même leurs taxes des inspecteurs pour une entreprise privée qui, elle, ne se conforme même pas aux lois.
Et il y a aussi la ministre Caroline Proulx qui dit souhaiter obliger finalement tous les annonceurs à afficher leur numéro de certification touristique.
Oui, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout le monde se renvoyait un peu la balle du côté des autorités. Qui a la responsabilité d'encadrer la réglementation des logements de type Airbnb, surtout ceux qui sont illégaux? La ministre Proulx s'est également présentée sur place aujourd'hui, promet d'agir. On l'écoute.
La première des choses, c'est d'avoir l'obligation d'avoir un numéro d'enregistrement sur chaque annonce qui sera publiée sur une plateforme de type Airbnb. La seconde chose, et on veut y aller une espèce de double mesure qu'on souhaite mettre en place. Donc, une fois que vous aurez le numéro d'enregistrement, on va demander également sur la plateforme que vous puissiez publier une photo du certificat qui confirme que vous pouvez faire l'exploitation d'hébergement touristique. Et la troisième chose, c'est qu'il y aura s'il y a des infractions, donc si le numéro d'enregistrement n'est pas affiché sur les plateformes, il y aura des amendes, non seulement à la plateforme, mais également aux locataires et non pas aux locataires.
Et Marie-Michel, il faut aussi dire que le propriétaire de l'immeuble se défend et nie toute responsabilité.
Oui, le propriétaire de l'immeuble, il s'agit de Maître Émile M. Benhamar, qui est connu pour avoir certains démêlés avec la justice. Il est propriétaire d'une quinzaine d'immeubles à Montréal. Il s'est fait plutôt discret depuis l'incendie la semaine dernière. Il nie toute responsabilité. Il le fait par le biais de son avocat. On l'écoute.
Mon client n'a jamais fait de location Airbnb dans cet immeuble-là. Ce qui est survenu, c'est que certains locataires, on parle de un ou deux, se sont livrés à des locations Airbnb illégales dans l'appartement. Et mon client avait pris des recours contre lui, mis en demeure, avait l'intention de prendre des procédures contre lui, mais il y a une entente qui était survenue. Il devait cesser de faire de location Airbnb et ses baux venaient à échéance au 30 juin de cette année.
Donc, nouveau point de presse demain à 8 heures. Les autorités promettent de faire les points de presse chaque matin là, pour nous tenir au courant de l'évolution de la situation. Il y aura également demain sur place une personne représentant le bureau du coroner.
Quelle tragédie quand même. Marie-Michel, merci beaucoup.
Absolument. Au revoir.
Maintenant, à la veille du dépôt du budget provincial, le ministre des Finances, Éric Girard, a mis fin à une tradition qui datait de 68 ans. Il ne s'est pas procuré de souliers neufs. Simon, il va plutôt faire un don destiné aux enfants.
Oui, voilà la fameuse prise d'image à la veille du budget. Normalement, on y voit le ou la ministre des Finances arborer une nouvelle paire de chaussures fraîchement achetées. Puis bien, souvent, c'est significatif. Ça a un lien avec ce qui pourrait se retrouver dans le budget. Par exemple, si le ministre s'achète des bottes de travail, bien, on pourrait croire qu'il y aura des investissements en infrastructure. On a vu dans le passé Éric Girard avec des souliers de course. C'était pour souligner la bonne performance de l'économie du Québec. Eh bien, cette fois-ci, il casse la tradition et puis décide de faire un don. Donc, on parle de 10 000 $ qu'il sépare avec le budget discrétionnaire de sa collègue, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et qui s'en va directement, le cas échéant, au Patro Rocamadour à Québec, parce que c'est là que la prise d'image prébudgétaire a eu lieu. Et c'est là aussi qu'on parle à la clinique de pédiatrie sociale de Québec. Puis, bien, il était accompagné aujourd'hui du docteur Gilles Julien, la fondation du docteur Julien, bien connue pour ses initiatives en pédiatrie sociale. Et puis, la tradition veut aussi que le ministre, normalement, révèle une information du budget, parce qu'il faut, préserver le privilège parlementaire. On ne peut pas dévoiler ce qu'il y a dans le budget avant que les parlementaires aient tenu compte du budget, aient reçu le budget. Et là, ce qu'il a dit, bien, c'est 50 millions de $ pour le prochain exercice financier qui seront dédiés à la pédiatrie sociale. C'est la réaction du docteur Julien.
Ce qu'on soigne, nous, c'est ce qu'on appelle des traumas complexes. C'est des enfants qui ont eu 56 traumas rendus à 5-6 ans et qui ne sont pas capables de s'en sortir sans l'aide d'un système comme le nôtre. Alors, ce qu'on souhaite vraiment, c'est de passer de 12 000, 13 000 enfants aujourd'hui, sur 4-5 ans, au moins aller chercher un autre 1 000 enfants par année.
Et Simon, est-ce que le ministre en a dit davantage quant aux baisses d'impôts promises en campagne électorale?
À demi-mot, je dirais, Marie-Christine, parce qu'évidemment, il ne peut pas vraiment donner de détails. Mais bon, la façon dont il a été questionné, c'est à savoir si il pourra tenir la promesse électorale de baisse d'impôts malgré le fait que l'avenir financier est très incertain. Évidemment, bon, les prévisions quant au risque d'inflation avaient été mises à jour lors de la mise à jour économique, ça, déjà quelques mois. L'avenir s'annonce peut-être un peu plus vert que, ou rose, si on veut, que ce qui était prévu initialement. Le ministre Girard dit que c'est un engagement qui avait été pris pour réduire le fardeau fiscal des Québécois. Il a l'intention de tenir cette promesse.
Il est indéniable que l'économie ralentit en 2023 et le Québec est bien positionné pour faire face à l'adversité. On a des outils, on a des capacités. Et on va faire face à ça. Puis je pense que le budget demain va aider.
Donc, les grands thèmes qu'on va surveiller demain lors du dépôt du budget, logement social et abordable, évidemment. Mmh. Financement des sociétés de transport en commun aussi. Ça faisait partie de la liste d'épiceries de l'Union des municipalités du Québec. À peu près toutes les villes parlent de la même chose en ce sens. Puis, évidemment, on surveille les baisses d'impôts.
Oui, évidemment. Merci beaucoup. À demain, Simon.
Au revoir.
On passe maintenant en analyse avec notre collaborateur, Dominique Vallière. Salut, Dominique.
Salut, Marie-Christine.
Comment ça se prépare, un budget? Il doit y avoir plusieurs étapes, hein?
Oui, oui, ça commence bien avant ce qu'on va voir demain. Donc, dès l'année précédente, donc la fin de l'année, à partir de novembre, il commence à y avoir des rencontres. C'est-à-dire que le ministre des Finances va commencer à discuter avec le premier ministre et lui dire, bien, écoute, voici les capacités là, qui sont les nôtres, voici les capacités réelles. Et donc, il y a une première décision à prendre par le premier ministre. C'est est-ce qu'on pousse un peu plus loin que les dites capacités? Donc, est-ce qu'on pourrait sortir un peu d'encre rouge ou si on décide de rester à l'intérieur du terrain de sable qui a été identifié par le ministre des Finances? Donc, ça, c'est la toute première étape. Ça se fait fin novembre, début décembre de l'année précédente, donc dans ce cas-ci, 2022. Et ensuite, bien là, on ouvre le bal des grandes discussions. Donc, on va avoir des discussions avec les collègues ministres qui vont rencontrer le ministre des Finances, parfois un à un, parfois en groupe, pour dire, bon, bien, voici dans mon domaine les besoins et est-ce que je serais capable de sécuriser cette somme-ci, cette somme-là? Donc, penses-tu que tu es capable de me faire quelque chose de bien? Ça commence donc janvier.
Avec les ministres seulement, pas avec les députés tout de suite.
OK, parfait. Exactement. Donc, dans un premier temps, ce n'est que le Conseil des ministres. Et ensuite, on va ouvrir plus largement aux députés du caucus gouvernemental, mais aussi aux critiques de l'opposition. Parfois, c'est le chef, parfois, c'est le critique en matière de finances. Pardon. Donc, on va, oui, aller rencontrer le ministre des Finances tranquillement. Et ensuite, prochaine étape, bien, c'est l'ouverture à la société civile. Donc, vous, moi, tous les citoyens du Québec qui se rendent sur le site du ministère des Finances, on peut remplir un questionnaire, mais aussi les différentes entreprises, regroupements, associations peuvent déposer des mémoires. Et donc là, les mémoires qui sont publiques, si ce soir on va sur le site du ministère des Finances, on peut voir l'entièreté des groupes qui ont déposé des mémoires et on peut voir l'entièreté des mémoires aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, on ouvre à la société civile, on fait des rencontres aussi. Donc, le personnel du ministre va rencontrer des groupes, mais le ministre lui-même va en rencontrer d'autres, ce qui veut dire généralement que ça sent bon pour le budget. Puis une fois qu'on a rencontré tout le monde, bien, il y a une dernière rencontre ou des dernières rencontres d'arbitrage. Hein, le ministre, le premier ministre peuvent bien dire on n'est pas la banque à Joe Violon, donc à un moment donné, il faut décider est-ce que ces sommes-là, on les donne d'un côté ou de l'autre. Ce sont des décisions politiques. Est-ce qu'on est capable de vivre avec la chaleur de tel ou tel groupe si jamais on ne va pas jusqu'au bout de nos engagements?
Donc le processus d'arbitrage, c'est la dernière étape où on choisit les postes budgétaires, l'argent qui est donné, puis ensuite, c'est l'impression.
Ensuite, ça part en impression, puis quand c'est parti en impression, bien... Aléa, Jacques Thérès, on va découvrir demain en même temps que tout le monde qu'est-ce qui est inscrit là-dedans.
Mais bon, évidemment, il y a des fuites et des informations qui circulent. Quelles seront les principales orientations du budget Girard, selon toi?
Bien, je pense que si on regarde la plateforme de la CAQ lors de la dernière élection, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Donc, on parlait, oui, de baisse d'impôts. On parlait, oui, de transport en commun. On parlait, oui, de transition énergétique. On parlait d'hôpitaux, des mini-hôpitaux qui feraient une plus grande place au privé. Donc, je m'attends à ce que tout ça, sur lesquels le gouvernement s'est bien avancé, que ça fasse partie du budget de demain.
Et en terminant, politiquement, là, Dominique, est-ce que c'est périlleux pour un gouvernement de déposer un budget?
Ben oui, c'est le plus grand exercice de communication, à part les élections, puis peut-être la rentrée parlementaire. Donc oui, tout le monde attend le gouvernement. Et il y a beaucoup de groupes qui sont réunis demain dans le huis clos. Certains qui vont être contents, certains non. Alors, ils auront demain des micros devant eux pour dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, c'est un exercice périlleux, mais généralement, l'an 1 du mandat, tout le monde sait à peu près ce qu'il va recevoir et tout le monde est un peu plus content que dans l'an 2, 3 et 4. Les élections arrivent, alors tout le monde est content.
Merci beaucoup, Dominique. On va surveiller ça de près, évidemment.
Merci.
Merci. Maintenant, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, estime dans son nouveau rapport que l'humanité a encore une chance d'éviter les pires dommages du changement climatique. Cependant, il pourrait bien s'agir de la dernière chance. Pour y arriver, le GIEC croit qu'il faudra réduire rapidement la pollution par le carbone et l'utilisation aussi des combustibles fossiles de près des deux tiers d'ici 2035. J'en discute avec Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace Canada. Bonsoir, M. Bonin.
Bonsoir à vous.
Donc, les effets des changements climatiques sont encore plus intenses et rapides que prévu. C'est tout un signal d'alarme du GIEC.
C'est tout un signal d'alarme. C'est la compilation de 7 ans d'études, les plus grands scientifiques experts mondiaux qui se sont entendus, qui démontrent clairement qu'entre autres au niveau des écosystèmes et des populations vulnérables, ils sont frappés davantage et ce partout sur la planète, plus fort, plus rapidement. Et encore une fois, les solutions, par contre, cette fois-ci, sont très détaillées. Et on nous présente justement le chemin à suivre. C'est un véritable guide de survie de l'humanité. Mmh. Comment arriver à couper nos émissions de moitié d'ici 8 ans? Le programme est ambitieux.
Oui, ce rapport-là souligne l'urgence, finalement, de prendre des mesures encore plus ambitieuses. Mais est-ce que le GIEC sera écouté? Ça, c'est l'autre question.
En effet, et le premier constat auquel arrive le GIEC, c'est qu'il y a déjà trop d'infrastructures pétrolières et gazières, des mines de sable bitumineux, des mines de pétrole, de gaz, des terminales, des raffineries. Donc, il ne faut plus en rajouter. Évidemment, il faut réduire rapidement. Ce qu'on nous montre, par contre, c'est qu'il y a actuellement un déploiement, entre autres, au niveau de la technologie, le solaire, l'éolien, qui deviennent extrêmement compétitifs, encore plus que les combustibles fossiles, des avancées dans les transports et surtout des potentiels de conserver le carbone, de capter davantage de carbone dans les forêts et de changer notre alimentation, entre autres avec moins de viande, de manière à atteindre ces objectifs-là.
Le GIEC avance aussi quelques mesures d'adaptation efficaces, notamment, je pense, à la restauration des milieux humides, l'aménagement d'espaces verts. Ça prend d'importants budgets, ça, pour réaliser tout ça, hein?
Le GIEC parle d'investissements nécessaires de 3 à 6 fois plus, entre autres, au niveau de l'adaptation, particulièrement pour, encore une fois, les populations vulnérables. Ça, ce sont les pays insulaires, par exemple, frappés par l'augmentation du niveau de la mer, mais aussi des populations plus vulnérables, même dans les pays riches, qui, par exemple, font face aux impacts de canicules meurtrières ou d'inondations et qui ont moins les moyens de s'adapter. Donc, oui, il faut changer le monde financier pour cesser d'investir dans les combustibles fossiles. Je vous rappelle que les grandes pétrolières ont fait 4 000 milliards de profits l'an passé. Il faut redistribuer cette richesse, faire payer les grands pollueurs et aider les populations les plus vulnérables.
Et à la fin de l'année, M. Bonnet, il y aura la COP 28 à Dubaï. Est-ce que les pays vont s'inspirer du rapport du GIEC pour prendre des engagements?
Ce rapport met la table et sera utilisé les prochaines semaines, mois et années comme référence. Les pays seront évalués en regard de ce que dit la science. Est-ce qu'ils sont en train de réduire assez rapidement leurs émissions? La réponse aujourd'hui, c'est clairement non. On s'en va vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Ce serait catastrophique. Et donc, il faut maintenant que les gouvernements qui ont approuvé ce rapport ligne par ligne soit tenu redevable et que la mobilisation continue de se faire sur les gouvernements. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'avez dit, ils n'ont pas respecté la science.
Patrick Bonnet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Plaisir. Bonne soirée.
On revient maintenant sur le drame d'Amqui survenu il y a une semaine. On apprend aujourd'hui le décès d'une troisième personne, Simon-Guillaume Bourget, 41 ans, succombé la nuit dernière à ses blessures au Chute Québec. Le père de la victime a écrit un message sur Facebook. Il affirme que son fils est mort en héros parce qu'il a sauvé 3 vies grâce à son don d'organes. Je rappelle que le conducteur de la camionnette, Steve Gagnon, fait face à 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort. Ce sont pour l'instant les seules accusations déposées contre lui. Malgré la grogne populaire, les élus français adoptent la réforme des retraites. On se rend à Paris au retour. En France, maintenant, la réforme des retraites qui recule l'âge légal de départ de 62 à 64 ans est adoptée aujourd'hui par les députés français après le rejet des 2 motions de censure visant le gouvernement. Je joins tout de suite en direct à Paris, Pierre Tremblay. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Marie-Christine.
Donc, comment ça se passe là, en ce moment dans les rues de Paris? Est-ce que c'est plus calme?
Il y a encore de la tension, donc une 5e soirée de façon. Après l'adoption en force du fameux projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour peut-être faire tomber le gouvernement. Finalement, ce n'est pas passé. Donc cette réforme est officiellement adoptée. Et évidemment, ça provoque beaucoup de colère dans le pays. Donc il y a les manifestations à Paris, assez dispersées. Il y a un dispositif policier qui est très impressionnant. Donc c'est plutôt des petits groupes de manifestants qui se promènent dans les rues de manière dispersée. Il y a un jeu de chat et la souris avec les forces de l'ordre, il y a des feux de poubelle qui sont allumés, des gaz lacrymogènes qui sont lancés. Et ailleurs en France, il y a d'autres manifestations. Il y a aussi des bureaux de députés qui ont été pris pour cible. Donc, encore beaucoup de tensions en France.
Oui, puis avec la colère d'une bonne partie de la population, pendant qu'on revoit ces images de manifestations, Emmanuel Macron prend-il, Pierre, un risque politique en allant de l'avant avec cette réforme?
Il prend un risque dans la mesure où c'est une réforme qui est très impopulaire. Donc, si on regarde tous les sondages sur le sujet, il y a une majorité de Français qui y sont opposés. C'est aussi une réforme qui est passée en force, donc sans qu'il y ait vraiment un vote des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un problème de légitimité. Déjà qu'il y avait un certain problème de légitimité avec Emmanuel Macron parce qu'il a été réélu l'année dernière avec un taux de participation assez faible, avec beaucoup de gens aussi qui votaient simplement contre Marine Le Pen. Donc là, aujourd'hui, oui, il y a une espèce de crise. Emmanuel va devoir travailler fort, surtout que ce n'est que le début de son quinquennat. Il reste 4 ans encore.
Oui, il y a quand même pas mal d'actions autour de vous en ce moment. Dites-nous, Pierre, pourquoi les Français s'opposent tant à cette réforme?
C'est une réforme assez technique, hein, une réforme des retraites. Il y a plusieurs raisons. Il y a une critique qui est faite notamment sur la question des métiers les plus précaires, les plus pénibles. Forcément, ce sont souvent des gens qui ont une espérance de vie moindre, donc ils vont moins profiter de leur retraite. Donc pour eux, travailler 2 ans de plus, c'est brutal. Et puis aussi, en France, on peut dire qu'il y a un peu une crise du travail. Contrairement à certains clichés, les Français, ils travaillent. C'est pas des fainéants. C'est juste qu'en France, le travail est moins bien vécu. Il y a des enquêtes d'opinion qui le montrent par rapport à d'autres pays européens. Les gens sont moins heureux au travail, peut-être en raison de conditions de travail qui sont moins bonnes, de rapports hiérarchiques qui sont différents. Donc voilà, les gens se battent pour avoir une belle retraite. Et c'est pour ça qu'il y a une colère ici en ce moment.
Et on s'attend à quoi là, au cours des prochains jours? Parce que finalement, l'adoption de la réforme va peut-être mettre le feu aux poudres, non?
Oui, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Donc déjà ce soir, des manifestations. Il y a une grande démonstration de force qui est prévue par les syndicats ce jeudi. Et puis ça risque de continuer peut-être demain soir. Donc voilà, on va voir si ça s'essouffle ou si ça continue.
Parfait. Donc, des manifestations au cours des prochaines heures. Pierre Tremblay, en direct de Paris ce soir, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, avec plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. Le président chinois maintenant, Xi Jinping, est arrivé aujourd'hui à Moscou pour une visite de 3 jours. Son homologue russe, Vladimir Poutine, s'est dit ouvert à des discussions sur le plan de paix pour l'Ukraine proposé par la Chine. Pékin espère jouer un rôle de médiateur dans ce conflit-là. Selon le Wall Street Journal, le président chinois pourrait avoir un entretien téléphonique avec le président ukrainien Vladimir Zelensky à son retour à Pékin. Ce sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping vise à démontrer la bonne entente entre la Russie et la Chine. Salut Yves.
Salut Marie-Christine.
On va revenir sur cette tragédie là, dans le Vieux-Montréal, un incendie qui aurait fait au moins 7 victimes. On parle de logements de location qui étaient affichés sur Airbnb, ce qui est illégal dans le Vieux-Montréal, on le sait. Il y a des règles, mais c'est facile visiblement de les contourner.
C'est facile de les contourner. Et là, on interpelle les gouvernements, on demande à la Ville de Montréal comment ça se fait qu'ils ne font pas respecter leur règlement. On interpelle Québec dit c'est le municipal. Bon, c'est bien là, d'avoir des inspecteurs pour faire respecter les règlements, mais moi, je voudrais attirer notre attention peut-être sur d'autres responsabilités. Marie-Christine, si tu es propriétaire d'un immeuble qui est dans une zone où tu n'as pas le droit de faire du Airbnb et que tu fais du Airbnb, tu as une part de responsabilité. Là, il faut faire attention, là, on ne connaît pas la cause de l'incendie et ce n'est pas le Airbnb qui a causé l'incendie. Cela dit, il n'en reste pas moins que tu as une responsabilité comme propriétaire d'un endroit qui est loué de façon répétitive pour des courtes périodes à faire en sorte qu'il soit conforme, que les gens ne soient pas enfermés. Les histoires d'horreur qu'on a entendues de cette jeune fille qui appelle le 911 et qui dit « Laissez-moi sortir, je suis emprisonné ici », c'est invraisemblable. Mmh. Alors, c'est un peu une sorte d'hôtel avec un autre nom, cette affaire-là.
Mais c'est le propriétaire, et dans un hôtel, Yves. Si le propriétaire dit, bien, écoutez, c'est pas moi qui fais du Airbnb, c'est mes locataires qui louent, donc il se déresponsabilise en disant ça, finalement.
Mais là, c'est ça. Tout le monde se déresponsabilise.
Ben oui.
Mais si, dans un immeuble, là, moi, j'ai l'impression que ça prendrait mieux qu'une corde pour pouvoir s'échapper d'un incendie, mais je suis pas spécialiste en bâtiment. Alors, ça, c'est une responsabilité. Responsabilité de ceux qui louent ou sous-louent illégalement. Également, faudrait peut-être pas oublier Airbnb. Parce que eux, S'ils savent ou devraient savoir que des logements sont loués dans une zone qui est hors location Airbnb, bien, ils ont une responsabilité aussi là-dedans. Parce que la première chose que tu fais quand tu cherches un logement sur Airbnb, c'est de voir où il est situé. Donc, c'est très facile par la géolocalisation et par les cartes de savoir où est situé un logement et de savoir s'il est dans une zone légale ou non. Et là, on a vu que dans d'autres États, bien, on a imposé des amendes de 1 000 $ pour chaque annonce d'Airbnb qui n'était pas pour un logement qui était autorisé à être loué. Et comme par hasard, le taux d'infraction a diminué dramatiquement.
Oui.
Alors, donc, il faut aller à la source.
Oui, parce que c'est comme ça actuellement au Québec, qu'on faisait un peu n'importe quoi, n'importe où, sans qu'il y ait de responsabilité ou de punition ou de sanction.
Ben exactement. Et là, c'est pas la seule grande multinationale de ce genre-là qui vient changer nos vies, changer les villes. Tu sais, si tu vas à Florence, si tu vas dans des villes comme ça, dans les zones touristiques, il n'y a plus de résidents, c'est du Airbnb partout. Alors, ces entreprises-là qui font des fortunes ont aussi des responsabilités, des comptes à rendre. Bien sûr, là, on ne sait pas, je le répète, d'où vient l'incendie. Mais il faudrait bien que les gens qui font de la location un métier s'assurent que ces endroits-là soient minimalement sécuritaires. Je doute que ça ait été le cas ici.
Yves, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle@commercialnouveau.info. C'est l'heure de retrouver l'animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
Bonsoir, Marie-Christine.
Un entraîneur de soccer de Québec aurait fait des dizaines de victimes mineures.
Oui, il a été arrêté le 24 février dernier. On savait, Marie-Christine, qu'il y avait plusieurs victimes alléguées, mais aujourd'hui, ça a explosé. Là. On parle de 33 victimes mineures qu'il aurait leurrées. Oui, 33 depuis janvier 2020, donc sur une période de 3 ans, une cinquantaine de chefs d'accusation, de la pornographie juvénile, s'exhiber les parties intimes à des personnes mineures. Bref, si vous êtes parent, ça doit vous donner froid dans le dos d'entendre ça. Et lui, il était coach de soccer à Québec, était en contact avec des jeunes. On peut se demander pourquoi on ne les pince pas plus vite, ces gens-là? Et on a posé la question à la criminologue Maria Mourani, que je vous invite à écouter.
Il y a un grand nombre d'individus qu'on n'est même pas capable de déterminer le nombre, là, qui sont sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, même des réseaux de rencontres hein, pour adolescents ou pour adultes, pour leurrer des jeunes de tout âge. Il faut faire des séances de prévention avec les jeunes. Que ce soit pour les enseigner, pour leur apprendre comment détecter des prédateurs en ligne, mais aussi comment s'en prémunir, comment accumuler de la preuve.
D'autant plus, Marie-Christine, qu'il y a des applications comme Snapchat où le contenu est éphémère. Ça rend ces individus-là très difficiles à tracer, à moins qu'il y ait dénonciation. Tous les détails dans quelques instants au Fil Québec.
Merci à toi, Jean-Simon. Bon bulletin.
Bonne soirée.
Bye-bye. Il y a 20 ans, jour pour jour, les États-Unis envahissaient l'Irak. Le Canada, contre toute attente, ne s'est pas joint à cette intervention militaire. C'est notamment grâce à la pression des gouvernements en faveur de la paix. Plus de 200 000 personnes ont marché dans les rues de Montréal en mars 2003, l'une des plus grandes manifestations du genre. Le reportage d'Anaïs El-Boujdaidi.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq.
C'est cette déclaration du président américain de l'époque, George W. Bush, qui annonce le début de la guerre en Irak. En cause, les Américains disent que le gouvernement irakien détient des armes de destruction massive, donc des armes nucléaires et biochimiques, et qu'il faut absolument les détruire.
Confirm that Iraq has mobile biological research laboratories.
Plus d'un mois avant l'invasion en Irak, il y a des pays comme la France qui s'opposent fortement à une éventuelle guerre.
L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate.
Et il y a des manifestations pro-paix qui s'organisent partout à travers le monde, dont au Québec. 100 000 personnes défilent dans les rues de Montréal le 15 février 2003. Un mois plus tard, une deuxième journée contre la guerre s'organise et les Montréalais sont deux fois plus nombreux à y assister.
Et là, on se trouve à l'angle de René Lévesque et Papineau. Pouvez-vous nous dire comment c'était il y a 20 ans ici?
Bien, il y a 20 ans ici, c'était un des deux points de départ d'une énorme manifestation qui visait à empêcher la guerre en Irak ou à tout le moins à empêcher la participation du Canada à cette guerre. Il y avait des troupes de théâtre, de tambour qui participaient à la manifestation. Il y a un groupe de théâtre, des marionnettes géantes qui s'appelle Bread and Puppet du Vermont, qui était venu pour la manifestation ici à Montréal. C'était vraiment extrêmement puissant comme sentiment, je dirais aussi, parce que les gens avaient l'impression que ça comptait, qu'ils pouvaient faire quelque chose.
Et contre toute attente, le Canada ne se joindra pas à l'offensive américaine. Le premier ministre de l'époque, le libéral Jean Chrétien, l'annonce le 17 mars, soit deux jours avant le début officiel de la guerre.
If military action proceeds without a new resolution of the Security Council, Canada will not participate.
Et c'est probablement en bonne partie dû à ces mobilisations-là, en particulier au Québec, où la mobilisation était vraiment énorme.
Des membres de la diaspora irakienne se sont mobilisés à l'époque. Et cette décision, eh bien, c'est un soulagement pour eux.
Jean Chrétien is one of the good leaders of Canada, and he knew what's happening, so we understand, appreciate the position of Canada at that time. We participated in the calls and protests to bring peace to the Iraqis. Iraqis are always the victims. They are not the cause of what happened. It's always the rulers who brought issues.
Cette guerre prend fin en 2011 avec le retrait de toutes les troupes américaines. Le Canada, de son côté, va participer de 2016 jusqu'à l'an dernier à une mission de maintien de la paix pour amener la stabilité dans le pays.
Hopefully now it's stabilizing and hopefully life goes back to normal and we can build a more prosperous country.
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sera-t-il bientôt de passage au Canada? C'est que le Comité du patrimoine canadien des communes a décidé de le convoquer. Cette décision-là a été prise après que Meta a annoncé la semaine dernière son intention de bloquer les nouvelles sur ses plateformes de réseaux sociaux si la loi sur les nouvelles en ligne est adoptée dans sa forme actuelle à Ottawa. Donc, le projet de loi C-18 obligerait les géants du numérique à payer les médias canadiens pour les liens menant à leur contenu journalistique ou toute autre utilisation de leurs nouvelles en ligne. Amazon va mettre à la porte 9 000 employés de plus au cours des prochaines semaines. Ça s'ajoute aux 18 000 mises à pied annoncées en janvier. L'incertitude économique règne, force le géant du commerce en ligne à réduire ses coûts et ses effectifs. Cette nouvelle restructuration vise les services d'info nuagique, le service de vente publicitaire et la plateforme de diffusion en direct Twitch. Maintenant, des groupes communautaires de Schlagamaisonneuve sont menacés d'éviction parce qu'ils résident dans des bâtiments vétustes. Ils occupent présentement des locaux qui appartiennent au Centre de services scolaires de Montréal. Ils demandent au gouvernement d'effectuer des travaux majeurs pour sauver leur espace. Voici ce qu'a préparé Lily Mercure.
Le pavillon d'éducation communautaire de Schlagamaisonneuve a élu domicile dans cet édifice du boulevard Pie-Neuf il y a plus de 50 ans. Après avoir reçu un avis d'éviction en décembre dernier, le PEC demande au Centre de services scolaires de Montréal de retarder son expulsion et celle de 11 organismes communautaires prévus d'ici la fin de l'année.
Comme vous voyez, c'est pas nouveau.
On s'y attendait vraiment pas ça. On les a entendus parce qu'on s'était dit, bien, OK, quelle est la raison? Pour quelle raison nous donnez-vous? Puisqu'on a un bail signé avec eux jusqu'à 2032.
Un organisme une alphabétisation.
On a plusieurs personnes qui viennent ici, puis ça a un grand impact dans leur vie. Ils nous disent à tous les jours, on est comme leur deuxième maison.
La raison invoquée pour l'expulsion par le Centre de services scolaires de Montréal, c'est que la bâtisse n'est plus sécuritaire en plus d'être vétuste et le ministère de l'Éducation n'a pas les fonds nécessaires pour y faire des travaux majeurs.
Où ils nous expliquent enfin, la mission du CCSM, c'est l'éducation des enfants. Ils doivent investir l'argent là où c'est nécessaire pour leur mission, évidemment que nous ne sommes pas une priorité. Je vous donne un exemple de l'état de nos fenêtres. Les écureuils ont mangé la plupart du bois ici. Nous, on a dû placarder vraiment, mettre cette morceau de bois pour empêcher l'eau et empêcher les écureuils de continuer à nous faire des dégâts. Mais si vous regardez, il ne reste plus rien.
Mais la bâtisse est quand même vétuste. Faut pas le nier. Là. Les fenêtres, il y a des trous, c'est mangé par les écureuils. Il y a peut-être même de l'amiante, en fait, dans les murs. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça?
C'est des problèmes réels, mais c'est des problèmes qui sont pas nouveaux. On les connaît depuis longtemps. Moi, j'arrive depuis 2018, puis j'étais pas le premier à réclamer des investissements majeurs au PEC. Mes prédécesseurs l'ont fait aussi, et je continue à le faire. On a connu, malheureusement, 3 écoles primaires qui ont fermé sur la rue Adam parce qu'il y avait eu un désinvestissement du gouvernement à travers les époques. Mais là, on connaît la même chose dans une autre variation avec le communautaire, ici, avec le PEC.
Eux sont habitués à venir ici, puis c'est des gens extrêmement vulnérables. On parle de personnes handicapées, toutes sortes de gens viennent nous consulter.
J'ose même pas penser... C'est quoi qu'ils vont faire, ces gens-là, si on ferme? Comment on pourrait... comment le gouvernement va s'en occuper autrement de ces gens-là? Parce qu'il faut bien que le gouvernement prenne leurs responsabilités. C'est le filet social qui s'effrite.
L'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, notamment avec des logiciels comme ChatGPT. Eh bien là, il fait son petit bonhomme de chemin un petit peu partout, même sur le fleuve Saint-Laurent. Sabrina, il y a des millions de dollars qui sont investis par le gouvernement du Québec.
Oui, on parle de près de 9 millions de dollars, en fait, qui seront annoncés dans le développement de 4 projets de systèmes de transport maritime. Donc, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un petit peu plus tôt la vice-première ministre du Québec, comme vous voyez, et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Ça s'est passé du côté du port de Montréal. Donc, c'est une annonce quand même assez théorique. Là. Je vais tenter quand même de la vulgariser le plus possible. Donc, dans le fond, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des 4 projets. Là. Il y en a plusieurs initiatives. Ça va permettre d'optimiser les voyages, par exemple, des navires, l'estimation du temps d'arrivée, la consommation de carburant. On veut vraiment faire entrer, en fait, l'intelligence artificielle dans le transport maritime québécois. Ça peut permettre aussi d'optimiser le déplacement des conteneurs. Et un des buts aussi est de réduire, en fait, l'empreinte écologique, environnementale du transport maritime au Québec. Par ailleurs, l'objectif d'un des projets est de réduire de 9 200 tonnes annuellement les gaz à effet de serre. Tout de suite, on peut aller écouter des réactions.
Avantage Saint-Laurent poursuit 3 grands objectifs. Doter notre Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives, assurer une navigation qui est efficace, qui est respectueuse aussi des écosystèmes et offrir à nos communautés maritimes des possibilités de développement qui sont prometteuses et durables. Ça, c'est les 3 grands objectifs d'Avantage Saint-Laurent. Et plus précisément, quand il s'agit d'implanter un corridor maritime sur notre Saint-Laurent et sur le Saguenay, bien, c'est d'avoir une industrie qui est de plus en plus compétitive, qui est de plus en plus performante et connectée et qui a une empreinte environnementale toujours moindre.
Au Québec, l'industrie maritime, c'est quoi? C'est 150 millions de tonnes transbordées annuellement. C'est 400 entreprises partout dans toutes les régions du Québec, mais c'est également 25 000 emplois qui démontrent autant l'importance et la présence de l'industrie dans toutes les régions du Québec. On sous-estime, mais quotidiennement, 80 % des biens consommés par les Québécois sont livrés par navire. Donc, 80 % de ce que l'on consomme, que l'on touche, que l'on voit, a été livré un jour ou l'autre ou a transité un jour ou l'autre par navire.
Bon, et Sabrina, il reste de l'argent. C'est rare qu'on dise ça dans cette enveloppe budgétaire-là pour d'autres projets.
Mais c'est ce que je m'en allais dire. En fait, techniquement, tout le monde veut tout le temps plus de subventions, plus d'argent. Et là, ce qu'on a observé aujourd'hui, ce qu'on nous a dit, c'est que dans cette enveloppe budgétaire-là, il reste encore 6,5 millions de dollars. Donc, il y a même la ministre Geneviève Guilbeault qui a dit « Hey, si vous avez des projets... » Appelez-nous, on va les évaluer. Ben, peut-être pas hey, comme ça, ça va peut-être un peu... Hein? Mais bref, appelez le gouvernement.
Merci, ça me
fait plaisir.
Le nombre de plaintes de passagers aériens a triplé au cours de la dernière année auprès de l'Office des transports du Canada. On parle de 42 000 plaintes. Il y a tellement de plaintes qu'il faut plus d'un an et demi pour traiter chaque cas. Le ministre des Transports a promis la semaine dernière 76 millions de dollars sur 3 ans pour réduire l'attente. 200 employés supplémentaires seront embauchés. Êtes-vous heureux en général? Restez là, au retour, on cherche le bonheur pour vous. C'est là la Journée internationale du bonheur aujourd'hui. Le palmarès des pays les plus heureux est sorti. La Finlande arrive en tête encore cette année. Le Canada, lui, se pointe en 13e position. Mais comment trouve-t-on le bonheur en 2023 avec l'inflation, la pandémie, tout ce qui se passe dans l'actualité? On comprend que ça peut être lourd pour le moral. Emmanuel Leroux-Néga s'est demandé, mais il est où le bonheur?
Pardon, excuse-moi, je cherche le bonheur. Savez-vous où je peux trouver le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Pardon, monsieur? Savez-vous où je peux trouver le bonheur? Parce que manifestement, vous l'avez l'air d'avoir trouvé.
Il est dans le cœur.
Je cherche le bonheur depuis ce matin.
Dans ce qu'on aime.
Quand on peut trouver le bonheur? C'est la bonne question.
Et c'est quoi le bonheur?
Le bonheur, si on le mesure, c'est trois choses. Il y a un élément de tête puis deux éléments de cœur. L'élément de tête, c'est est-ce que je suis satisfait de ma vie? Puis les deux éléments de cœur, c'est avoir plus d'émotions positives que d'émotions négatives.
Le bonheur, c'est souvent trouver une raison d'être. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je veux dire de moi à la fin de ma vie? C'est vraiment une façon de vivre sa vie.
D'aller chercher le bonheur à l'extérieur, c'est impossible. C'est vraiment un état d'être avec soi. T'as rien de besoin. Il fait beau, c'est merveilleux. Des nuages, c'est merveilleux pareil. Peu importe, c'est un état d'être.
Les études montrent que plus on cherche le bonheur, moins on est capable de l'atteindre. Lorsque je vais avoir ma maison, je vais enfin ressentir l'émotion que je cherche. Mais il faut arrêter de penser que lorsqu'on va être rendu à quelque part, atteindre un certain objectif, c'est là qu'on va avoir notre bonheur. C'est parce qu'on risque juste d'être déçu.
Si vous recherchez le bonheur par matérialisme, par capitalisme, par pression sociale, par évitement de la honte, de la culpabilité, c'est une course sans fin qui ne vous apportera pas ce que vous poursuivez. Mais si vous avez une quête saine, soit par plaisir, soit par sens, soit par valeur personnelle, à la fois la destination et le chemin vous amènera le contentement que vous recherchez. Raccourci qu'on fait souvent, c'est le bonheur devrait être facile. Le bonheur devrait m'amener le confort. Le bonheur devrait être quelque chose, un état de béatitude constant qu'on n'a pas besoin d'entretenir. C'est pas ça.
Le bonheur, c'est chez Costco.
C'est Costco le bonheur?
Oui, à SRQ Dépôt.
En fait, il y a certains chercheurs qui ont fait des études sur l'effet des cadeaux de Noël pour voir combien de temps est-ce que ça durait. Ça dure à peu près un mois.
On remarque qu'il y a un lien assez fort entre l'argent et le bonheur lorsqu'on s'extrait de la pauvreté. Mais assez rapidement, et ce, dans toutes les régions de la planète, on atteint un niveau de satiété. Puis pire que ça, dépasser ce niveau de satiété financière-là, le bonheur descend.
On est à la retraite, ouais. Fait froid un petit peu, on pense à partir dans le sud, là. Ça serait ça le bonheur.
Comment atteindre du bonheur dans la vie de tous les jours, pas juste quand je suis en voyage dans le sud?
Et ça, vous allez être content, il y a une recette. Il y en a une. En fait, c'est le rétablissement quotidien. On va chercher à avoir du détachement par rapport à ce qui nous stresse. Donc, ça peut être le travail, là. Ensuite, avoir des expériences où on se sent compétent.
Une autre piste de réflexion, ça serait de dire, c'est quoi mes sources de vitamines psychologiques dans ma vie? Qu'est-ce qui me permet d'être parfaitement moi-même? Qu'est-ce qui me permet d'être efficace? Et qu'est-ce qui me permet d'être connecté aux autres? Donc, les trois besoins, autonomie, compétence, affiliation. Si on a une boussole interne qui nous guide naturellement vers ces vitamines-là, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, ça risque d'augmenter nos niveaux de bonheur à court terme et à long terme aussi.
Sans le bonheur, ça sert à quoi la vie?
Michel, ce soir au fil 22, tu reçois la ministre québécoise du Tourisme, Caroline Proulx.
Oui, la ministre Proulx qui a annoncé dans la foulée de l'incendie mortel dans le Vieux-Montréal, qui, je le rappelle, aurait fait là, au moins 7 morts, qu'elle veut revoir et resserrer un peu la vis de l'industrie de la location d'appartements pour fins touristiques à court terme. C'est d'ailleurs interdit dans le Vieux-Montréal, ça. Et là où, en fait, c'est permis, ça prend, tu sais, une certification de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Et là, la ministre veut obliger les locataires, ceux qui louent donc leur maison, d'afficher la certification dans toutes les annonces. Puis elle veut aussi imposer des amendes, puis ça pourrait toucher, entre autres, là, des plateformes de location.
Et ça sera l'objet également...
Des débatteurs ce soir.
Ça sera l'objet des débatteurs.
Ça va être le sujet de notre débat. Notre question ce soir, dans les cas de location illégale, est-ce que les plateformes de type Airbnb devraient être tenues responsables et mises à l'amende? On va en débattre ce soir avec, entre autres, François Lambert. On aura Déborah Cherenfant avec nous. Geneviève Peterson et Victor Henriquez, parce que tout ce qui est arrivé en fin de semaine, bien, la semaine passée, ça ramène tout le débat des Airbnb.
Non, puis c'est important qu'on s'y penche. Merci beaucoup, Michel.
Bonne soirée.
Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.